Allez-y. Non, une seconde, je compte. Alors, 3, 4.
Non, c'est fa la bocca cheia.
On ne parle pas la bouche pleine.
Une émission d'Alain Kruger.
Sortez.
On est foutus. On mange trop.
Bonjour.
Bonjour Alain.
Nous sommes à table avec Céleste Cândido. Comment prononce-t-on ce nom correctement en portugais ?
Céleste Cândido.
Céleste Cândido, vous avez fait beaucoup de métiers. Vous êtes née en Angola, vous êtes d'origine portugaise et vous avez beaucoup vécu au Brésil. Mais vous parlez un français remarquable et vous avez, dans cette nouvelle partie de votre vie, vous êtes naturopathe. Et dans cette réflexion que vous menez autour de l'alimentation, de se bien nourrir, vous avez beaucoup travaillé à la fois sur le jeûne et à la fois sur la meilleure façon de s'alimenter. Et vous parlez à notre cerveau émotionnel, à notre intestin.
Le jeûne fut une vraie découverte pour moi. C'était une nouvelle vie qui a démarré après ce jeûne. C'était une rencontre tout à fait par hasard. J'ai commencé à jeûner un jour parce que je mangeais trop. Je pense que je mangeais trop, comme beaucoup de personnes. J'avais pas mal de symptômes que je me rendais compte. Quand j'étais un peu à jeun, j'allais mieux. Et j'ai décidé de faire l'expérience et je tentais de ne pas manger un week-end. Donc je me suis enfermée chez moi, j'ai pris des jus, un peu de thé et ça s'est très bien passé. Je l'ai fait sans problème, c'était une révélation. Je pensais avant, comme beaucoup de personnes, que je ne pouvais pas sauter un repas. Passer une journée sans manger, c'était quelque chose d'impossible. Et quand je pense qu'ensuite je suis arrivée à faire 3 semaines, jamais je l'aurais imaginé.
Et quand vous réfléchissez à ce choix, ce choix de vie, c'était un choix spirituel, un choix physique?
Ah, c'est un choix physique, c'est quelque chose, c'est de l'ordre du ressenti. C'est pas une décision comme ça, c'est quelque chose qui était en moi, qui m'a parlé. C'est comme une voix qui dit, bon, aujourd'hui, arrête de manger. T'as trop mangé. C'était comme ça que je l'ai senti. Je l'ai vécu comme ça.
Alors, vous avez vu qu'il y a un best-seller de cet été qui s'appelle Le charme discret de l'intestin chez Actes Sud, qui a l'air de parler à tout le monde. Cet intestin, on ne l'écoute pas assez.
Oh, j'aurais adoré avoir écrit ce livre parce que je m'intéresse à l'intestin. Ça fait plus de 15 ans que je m'intéresse à cette partie de notre corps. C'est tellement important. C'est le siège des émotions. L'équilibre de cet intestin nous amène au bonheur, au bien-être. On ne peut pas être dans l'attitude de recevoir, d'accueillir, de donner si l'intestin ne va pas bien. Donc, c'est essentiel.
Et comment s'adresse-t-on à cet intestin? Comment faut-il lui parler? Dans quelle langue avec,
Il faut être gentil avec. Il faut lui donner à manger des bonnes choses, première chose.
Alors, quelles sont ces bonnes choses?
Ah, les bonnes choses, il faut manger des choses vivantes. Il faut manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de graines, des bonnes huiles. Il faut le masser, il faut l'aimer, il faut dire que j'ai un très joli ventre. Il va vous donner beaucoup de retours, beaucoup, beaucoup.
Et est-ce qu'il faut, par exemple, l'emmener sur... sur une plage, l'après-midi à Itapoa?
Écoutez, Vinicius de Moraes. Et puis, falar d'amour Itapoa, hein, je suis content d'Omar d'Itapoa. Um velho calção de banho, o dia pra vadiar, o mar que não tem tamanho, e arco-íris no ar, depois na praça caíbe, sentir preguiça no corpo. Là, j'étais à Itapoa.
Vous voulez chanter aussi, vous avez le droit.
Une autre fois.
Si l'on se confronte justement à cet intestin, vous nous avez donné des conseils assez généraux, mais si on est très pratique, qu'est-ce que ça donne?
Ce n'est très pratique. Il y a des choses qu'on ne va pas mélanger, il y a des aliments qu'on va supprimer de notre alimentation.
Lesquels par exemple?
Les aliments raffinés.
Raffiné, que vous écrivez ça comme le sucre raffiné, le sel raffiné, l'huile raffinée, c'est ça?
Absolument, c'est raffiné là. Ouais. C'est pas un côté raffiné, c'est le mauvais côté du raffinage, on va dire. Et ça, c'est une transformation des aliments qui vont les rendre pas assimilables par notre intestin. Nous sommes, en fait, il y a une programmation en nous. Nous sommes programmés pour digérer ce que la nature donne, dans l'état dans lequel elle nous donne. Les transformations industrielles, comme le raffinage, vont enlever une partie de ces aliments. Ensuite, nous n'aurons plus à avoir la reconnaissance pour bien les digérer. Nous avons dans notre corps ce qu'on appelle des enzymes, hein, pas les enzymes gluten qui mangent les tâches, ce sont les d'autres, ce sont les enzymes digestifs, et ceux-là ont une mémoire, ont un programme. Et ce programme va avec un aliment qui est complet, qui est d'origine. À partir du moment qu'il est trop transformé, c'est très compliqué pour nous de le traiter. Les aliments sont constitués de deux parties, de l'acide et du basique. Quand nous enlevons la partie basique, c'est ce qu'on enlève avec le raffinage, il n'y a plus que de l'acide qui va arriver. Cet acide, pour être traité par notre corps, va demander du basifiant chez nous. Le basifiant, on va le trouver essentiellement dans les légumes, à condition de manger beaucoup et cru, de préférence. On va l'avoir aussi plus tard, si on n'apporte pas par les fruits, par les légumes, les fruits aussi, ils en ont pas mal. Et on va le trouver dans notre réserve osseuse. Donc, la première chose que ça va nous faire, c'est que ça va commencer à nous décalcifier. On va perdre le calcium petit à petit. Ensuite, il y a des maladies qui vont se développer. Il y a des expressions du corps qui vont commencer à se mettre en place. Ce qu'on appelle des maladies métaboliques. Et celles-là correspondent environ à 70% de nos maux. C'est énorme. Ce sont des choses qu'on peut résoudre avec une meilleure alimentation. Mais pas tout. C'est vrai que l'aliment n'est pas tout. Le mental est très important aussi. Et pour revenir à notre intestin, l'intestin est très sensible aux deux. Quand nous avons un état de stress important et qu'on le maltraite en plus avec une mauvaise alimentation, les résultats vont être désastreux. Et on arrive à tous les problèmes que nous avons dans la vie maintenant. Je pense que 70%, c'est beaucoup. Donc, il y a vraiment une attitude à avoir dans la vie, à avoir une attitude responsable dans la consommation. C'est la première chose. Il faut s'informer, les informations sont là. On en parle beaucoup maintenant. C'est vrai que pendant un moment, ces informations étaient pas très entendues. La presse n'était pas friande, mais ça a changé.
Mais Céleste Candido, est-ce qu'il n'y a pas aussi une relation avec ce qu'on peut appeler une dépendance affective
Oui, la dépendance affective, bien sûr. L'aliment est affectif. Ça commence déjà des fois petit. Hein, moi, je me souviens, je l'ai fait aussi avec les enfants. L'enfant petit, il pleure, il demande du câlin, il veut du contact, des caresses, on est occupé, on n'est pas toujours disponible, même si on les adore, c'est ce qu'on aime le plus au monde. Mais néanmoins, on va prendre une totote, on va prendre un petit quelque chose de sucré qu'on va faire goûter avec le doigt, le bébé, la première fois qu'il va goûter le sucre, en plus, il adore. Juste, c'est quelque chose, on est programmé comme ça, on est programmé pour le plaisir.
Un peu de calvados.
Dans certaines régions de France, je crois que ça se pratiquait dans le biberon.
Bien sûr, ça se pratique encore.
Encore ?
Bien sûr.
Bon, l'information n'est pas arrivée là-bas. Ouais. Et donc, ça, c'est le bébé, plus tard, il grandit, il sollicite les parents, on a plus ou moins des vies sociales, des vies occupées. On a tendance encore à donner un petit gâteau, il va être tranquille.
Vous voulez dire toujours du sucre.
Du sucre, on donne à manger, à manger, à manger. Donc, qu'est-ce qui se passe plus tard, dès qu'on a envie de câlin, la première chose qu'on va faire, c'est quoi? On va mettre quelque chose dans la bouche et de sucré de préférence. En plus, le sucré, surtout les sucres qui n'existaient pas dans la nature. Par exemple, il n'y a pas d'arbre à bonbons, il n'y a pas d'arbre à gâteaux. Il y a tout un tas d'arbres qui n'existent pas dans la nature.
Oui, et on ne parle pas de la cuisine qui vient des fast-foods, enfin, qui sont...
Absolument, qui sont faits en plus avec tous ces produits raffinés. Les produits raffinés, ce sont des sucres concentrés aussi. Hein. On oublie souvent, ce sont des grands apports de sucre qui arrivent en masse dans notre corps et qui vont avoir ensuite une incidence sur une autre partie qui est la glycémie. Donc, ça va faire bouger aussi le sucre dans notre sang. Et là, il y a d'autres maladies qui sont très communes, qui vont se mettre en place. On a vu aux États-Unis ce que ça a donné, le mode alimentaire américain, où ils mangeaient beaucoup avec le junk food, mais beaucoup d'hamburgers, beaucoup de soda, beaucoup de glace. Ce sont des aliments très, très riches en sucre. Et on a vu le résultat aux États-Unis. Et néanmoins, malgré qu'en France, par exemple, j'ai bien observé, on refusait un peu ce modèle, et nous sommes arrivés à ce modèle. On est arrivés à manger de la même façon, à vivre de la même façon. Même si beaucoup de magasins maintenant, ils ont pris un habit un peu vert, qui donne un côté à campagne et plus
même
sain.
Même les marques industrielles, les produits, les pires produits d'agro-industrie sont déguisés sous le masque du bio ou du faux bio, ou du vert en tout cas.
Non, et puis, il y a très insidieux parce qu'on y travaille aussi de façon, si pour les rendre, on va travailler le goût pour les enfants, pour les petits, on va travailler le goût pour les ados, on travaille le goût pour les adultes.
Et puis, il y a une sollicitation visuelle aussi.
Bien sûr, la pub est partout. La proposition est tellement forte. Il y a des heures dans la journée où on a plus faim que d'autres. Les personnes qui sortent du bureau à 17h, à 19h, à 18h, ils ont juste envie de dévorer n'importe quoi. Ils passent à la boulangerie pour amener la baguette à la maison. Ils sont capables de manger la baguette, avec arriver avec un quart de baguette, tellement on est affamé. Et mettre des pubs à ce moment-là, ça va encore solliciter plus l'envie de consommer des aliments qui sont pas idéaux, mais qui sont faciles à trouver, ils sont partout. Le problème, c'est ça. Et puis, en plus, il y a cette addiction qui est là dans notre tête, ce plaisir immédiat. Et quand je parle à beaucoup de personnes que je reçois, ils me disent souvent, je peux pas me passer de ce petit plaisir. Mon petit plaisir, c'est mon petit plaisir. C'est vrai que le plaisir est très important pour l'homme, mais on peut déplacer le plaisir. Quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est qu'en arrêtant certains aliments,
lesquels, par exemple, en dehors de ceux que vous venez d'évoquer, en dehors des aliments raffinés.
Mais c'est les sucres, hein, de toute façon. Les pâtes blanches et tout ce qu'on fait avec les pâtes blanches, toutes les farines qui sont raffinées, c'est essentiellement le blé qui est raffiné actuellement. Et tout ce qu'on fait avec, on fait des farines, on fait des flocons. Avec les flocons, qu'est-ce qu'on fait? On fait des pâtisseries, on fait des céréales pour manger le matin. Le pire de tous, je crois que ce sont les petits biscuits. Parce que le biscuit, pour faire les biscuits, on arrive à des raffinages qui sont de l'ordre du T55, 40 même. Il y a des chiffres qui vont de 45 jusqu'à 110 qui démontrent le raffinage, le taux de raffinage, jusqu'à 160, pardon. Plus le chiffre est bas, plus l'aliment est raffiné. Et les petits biscuits que nous consommons, ils sont un T45.
Ça s'est écrit sur les paquets?
Il n'y a que dans les magasins bio qu'on marque ça. On le marque sur les farines qu'on achète au kilo. Sur cela, oui. Mais sur les aliments, non. Je pense qu'on n'est pas encore atteint un stade suffisamment critique pour qu'on oblige les industriels à mettre la qualité du produit qui est dedans. On parle de la composition, il y a tant de ci, il y a tant de ça. La composition est obligatoire, mais on parle pas du raffinage. On commence à parler des huiles qui sont hydrogénées. C'est obligatoire parce que ça a été démontré aux États-Unis que c'était un des facteurs les plus importants de prise de poids. Mais encore, je trouve qu'il n'y a pas assez d'informations et que le consommateur, il ne sait pas. Il ne sait pas quand il va acheter.
Et il devient malade.
Il devient malade, oui, il ne sait pas. Il ne sait pas ce qu'il achète. Malgré que ce soit écrit certains produits dessus, il ne sait pas ce que ça veut dire.
Et quand on parle de dépendance affective, ça peut être aussi la maladie d'amour.
Sur France Culture, on ne parle pas la bouche pleine avec Alain Kruger.
Yo tengo una enfermedad, morena, dentro de mi corazón, morena. Creí que era la presión, morena, y el doctor. Después de ver al doctor, morena, y no explicarme la razón, morena, yo consulté a una gitana, morena, que en su santuario me vio. Al verme la gitanita me dijo que la razón de mi mal no era problema de colesterol.
Problème de colestérol.
Arrêtez là-dessus. C'est intéressant, diabète d'amour. Le diabète, c'est cette maladie qui est vraiment exponentielle. Et on attend souvent d'arriver à des stades vraiment importants pour s'en rendre compte ou pour prendre une action, faire une action contre ça. Et le problème majeur, c'est qu'il y a énormément de personnes qui ont ce problème-là sans s'en rendre compte.
Pas, ouais.
Ils le savent pas. Mmh. Et ils vont découvrir quand ils vont commencer vraiment à avoir la vue qui baisse beaucoup, les reins qui commencent à mal fonctionner, parce que le sucre a comme effet aussi de boucher les vaisseaux les plus petits de notre corps, qui sont ceux des yeux et ceux des reins. Et c'est trop tard quand on arrive là.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on mange mieux?
C'est une attitude déjà d'essayer de consommer des produits complets. Déjà, si on aime le sucre, si on a une petite addiction au sucre, avant de prendre des décisions extrêmes, de dire j'arrête, etc., parce que ça crée de la frustration c'est mauvais, ça rend malade aussi. Et quand on est frustré, on a encore envie de manger plus.
Donc vous ne parlez pas de régime?
Je ne parle pas de régime, je suis contre le régime. Je suis pour une alimentation équilibrée. C'est ce qui est important, c'est ce qu'on va manger tous les jours, du matin au soir. On doit manger varié, on doit manger des choses fraîches, on doit cuisiner au maximum, manger moins de biscuits, faire des gâteaux à la maison. Ça, c'est déjà une solution aussi. Revenir un petit peu au vieux temps, le gâteau que la grand-mère faisait, que la tante faisait, ça, c'est une très bonne solution. C'est pas très pratique, mais c'est tellement bon. Et c'est se mettre dans une bonne attitude aussi, dans une bonne attitude alimentaire, dans une attitude responsable. Il faut consommer des légumes frais, il faut pas trop cuire, ne pas se laisser entraîner par les autres. C'est une décision, en fait, c'est une décision personnelle. Une fois qu'on sent qu'on est capable d'aller dans ce chemin-là, surtout, faut pas se laisser influencer. Il faut plutôt faire le contraire, influencer les autres, les entraîner dans ce camp-là.
Et, alors là, vous voulez les entraîner vers, dans quelle direction?
Mieux manger. Proposer à ses amis, tiens, on mange à la maison, on fait les courses, on fait plein de salades, on fait plein un bon poisson,
une
bonne viande.
Ensemble.
Revenir au partage qui est très important, mais le partage qui avec du sain, pas avec du rapide, pas avec je suis pressée, je prends n'importe quoi. Non, il faut se remettre, ça c'est la bonne attitude, c'est celle-là.
Et la salade de fruits, c'est bon?
Ouais, ça dépend à quel moment on va la manger.
Quand Bernard Ménez chante André Rimbourg, ça vous plaît?
Ta mère t'a donné comme prénom salade de fruits. Ah, quel joli nom! Au nom de tes ancêtres hawaïens, il faut reconnaître que tu le portes bien. Salade de fruits, joli, joli, joli. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, joli, joli, joli. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Dans ma paillote au bord de l'eau, y'a des ananas, y'a des noix de coco. J'en ai déjà goûté, je n'en veux plus. Le fruit de ta bouche serait le bienvenu. Salade de fruits, joli, joli, joli. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère.
Alors cette salade de fruits, il faut la manger quand? Et par exemple en ce moment, qu'est-ce qu'on fait comme salade de fruits?
À la salade de fruits, actuellement, on va avoir de la pomme, on va avoir du raisin, ce sont les fruits de saison, excellent. On peut même faire une meloudiette des raisins, hein, pour les courageux. Ça donne beaucoup de résultats.
C'est-à-dire?
Manger que du raisin pendant quelques jours. Même un jour, deux jours, trois jours. Et ceux qui prennent la grande décision, ils vont le faire une semaine. C'est une cure qui se pratique depuis longtemps, la cure Uvale, qui donne des résultats exceptionnels. Et ça a comme bénéfice de nettoyer le sang. Il y a un sang qu'on dit est propre, étant donné qu'il véhicule beaucoup de choses dans notre corps, va véhiculer beaucoup de sang et éliminer de ses déchets.
Et alors, les salades de fruits, on les mange au dessert?
Pas toujours, ça dépend. Ça dépend
ou
comment
jamais.
On a mangé. Si, on peut faire des salades de fruits, pas avec tous les fruits. Déjà, le melon et la pastèque ne se mélangent pas avec les autres fruits. Hein. Ce sont des aliments qui se consomment seuls. Ils ne peuvent pas se mélanger. Ça crée des problèmes de digestion
même
importants.
Même avec de la menthe
Même avec, si, seul, mais pas derrière le jambon avec le melon. C'est une très mauvaise association alimentaire. Nous avons des enzymes digestives et avec les fruits, ça cause un problème. Beaucoup de personnes disent, tiens, je suis ballonnée après un repas. Pourquoi on est ballonnée? Parce qu'on a fait des mauvaises associations alimentaires. Et une qui est facile à régler, c'est d'arrêter les fruits à la fin d'un repas. Si on peut manger, si on a fait un repas plutôt de riz, de pâtes, d'amidon, donc, on peut consommer de la pomme dans tous ses états. Hein. Si la pomme au four, la pomme en compote, crue, comme on veut. Si on a fait un repas plutôt protéiné, on a mangé du poisson, de la viande, là, c'est plutôt l'ananas et la papaye. Au contraire, l'ananas et la papaye ont des enzymes qui vont aider à digérer la protéine. Même dans certains pays d'Amérique du Sud, quand on a une viande qui est pas très tendre, on la fait mariner avec la papaye pour faire en brochette ou pour la cuire en site, elle devient très tendre parce qu'elle est prédigérée. Et alors les salades de fruits, moi je les placerai le matin, je placerai au goûter, surtout au goûter. Le goûter c'est excellent, manger des fruits. Pour des personnes, justement, pour revenir tout à l'heure à ce qu'on parlait tout à l'heure de glycémie, la salade de fruits, le matin, peut donner un pic de glycémie qui est pas très bon, qui va fatiguer, qui va donner un vrai coup de pompe dans le matin.
Est-ce qu'il y a des fruits particulièrement bénéfiques? Est-ce que
La pomme et le raisin, excellent. L'ananas, je vous ai dit, ça aide à digérer la protéine, comme la papaye. Et puis les autres, il y a les baies rouges. Ce n'est plus la saison maintenant, c'était plutôt au printemps. Ce sont des fruits excellents.
Les cramberges.
Oui, évidemment, c'est riche en antioxydants, c'est superbe. L'antioxydant, c'est le fruit de la beauté. Tous les fruits qui amènent des antioxydants, c'est les fruits qui vont vous faire rajeunir, ont empêché de vieillir, donc parce qu'ils empêchent la peau de rider.
Lesquelles, par exemple?
Toutes les baies rouges. Ensuite, vous avez le citron, qui est très riche en antioxydants. Nous avons tous les petits fruits tropicaux. Nous avons un qui parle beaucoup maintenant, la baie de goji. Et plus un fruit est coloré, plus il est riche en antioxydants. Donc, il faut choisir la couleur.
Et le citron, c'est pas très coloré.
Mais il est riche en antioxydants. C'est un fruit très particulier. Excellent pour la santé. Très alcalinisant aussi.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, pour mieux manger, il faut alcaliniser son terrain?
Alcaliniser. Donc, l'équilibre acide-base. Dans la vie, tout est question d'équilibre. Et l'être humain est composé comme la Terre. Nous sommes composés de 30% de solide, 70% de liquide. Ces liquides, qui sont constitués essentiellement par le sang, la lymphe et les liquides rachidiens, sont nos grands fleuves intérieurs. Ils vont véhiculer tous les nutriments de ce que nous apportons par l'alimentation, mais aussi véhiculent les déchets. Ce qui va permettre les bons échanges, c'est le pH. Donc le pH, on connaît le pH de la peau, on connaît le pH de l'eau. Nous, notre pH idéal, c'est entre 7,34 et 7,43. Et quand nous sommes dans cette marge-là, tous les échanges métaboliques vont se passer
parfaitement
bien.
Et ça, donc, tous les matins, on fait un petit pipi sur un papier pH pour calculer son pH?
C'est-à-dire, sur le pipi, on va voir l'acide qu'on a éliminé. Il faut faire des prises de sang pour aller plus profond. Et puis maintenant, il y a aussi des prises de sang avec une recherche spéciale qui s'appelle la CRP. La CRP permet de mesurer le taux d'acidité dans l'organisme.
Et quand on réalise tout ce que vous dites, est-ce qu'on a le sentiment que, comme Maria Callas dans Le Fosse de Gounod, de se voir si belle dans ce miroir? Céleste Candido, pardon d'interrompre la calasse, mais si un homme sage est un homme qui a un bon intestin, quels sont les conseils que vous lui pourriez lui donner en ce l'homme, une femme, bien sûr.
Il y a un courant, pour une fois, je suis vraiment pour ce courant dont on parle beaucoup maintenant, la presse communique dessus aussi pas mal, et ce sont les jus de légumes. Ah, ça, c'est quelque chose, c'est un vrai, un élixir de jeunesse et de santé, qui sont riches, qui vont alcaliniser le terrain, qui sont antioxydants, qui vont apporter vraiment un bon équilibre. Pour la glycémie, ils sont parfaits. Juste, il faudrait que tout le monde en consomme, vraiment, tous les jours. Mais tous les jours. Il faut s'équiper d'une petite machine à la maison, d'un petit extracteur, et vraiment en faire.
Un petit extracteur.
Voilà. Il faut un extracteur. Il y en a partout dans le commerce maintenant. Avant, c'était difficile, c'était très cher. Il fallait aller chercher sur Internet. Et ils sont apportés demain dans tous les magasins, en grande distribution. Ils sont partout. Et on peut se faire un plein de santé avec ces jus de légumes.
Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme jus de légumes, par exemple?
Mon favori?
Oui, bien sûr, votre favori, en cette saison.
Il y en a le matin que j'adore, je me fais du citron avec de la pomme, du gingembre et des carottes. C'est mon favori. Il fait l'humanité, même les enfants l'aiment celui-là. Parce que c'est une très bonne chose pour les enfants aussi, pour les adultes, bien entendu. Mais les enfants aussi, ils ont souvent tendance à mal manger des légumes, mais ils n'aiment pas. Il y a quelque chose, ils boudent souvent. Et c'est une façon de les faire consommer. Et on peut en faire avec des très belles couleurs et des bénéfices juste extraordinaires.
Et alors une autre association?
Ah mais il y en a plein de recettes maintenant partout. Alors il y en a un qui est un peu plus pointu, qui est à base de betterave, et la betterave est excellente pour le sang. Et donc betterave, citron, gingembre toujours, parce que j'adore le gingembre, ça apporte un petit côté qui donne de l'énergie. Et je rajoute souvent du céleri, on peut mettre un peu de carotte, de la pomme, il est excellent.
Et si vous deviez nous donner un dernier conseil avant de nous quitter, Céleste Candido?
Ah, il y a un autre pôle qui est très important en dehors de l'alimentation, c'est le sport, il faut respirer. C'est autre chose qui est très importante. Pour que toutes ces fonctions se passent bien, il y a une règle des trois que j'adore, c'est qu'on peut vivre 3 mois sans manger, on peut vivre 3 jours sans boire et 3 minutes sans respirer.
Oui, c'est une bonne règle de 3. Bien, c'est... Merci beaucoup, Céleste Candido.
Merci.
Attention, hein. 3, 4. Pliez tendu la jambe et hop.
C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Crugère, attaché d'émission Dominique Compétissard, la prise de son est de Valérie Lavalard, le mixage d'Olivier Dupré et la réalisation d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours et 1001 nuits. Vous pouvez, vous devez même peut-être la podcaster ou la télécharger et dans quelques instants, écouter le journal sur France Culture.